Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée « Chemin de vérité ». Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. L'étude de ce jour est la quatrième dans une série sur la délivrance que Jésus nous donne. Il y a une tendance dans certains milieux chrétiens de vouloir attribuer toutes sortes de problèmes à des liens sataniques. Si une personne souffre d'une longue maladie, si elle est pauvre ou qu'elle ne réussit pas sur le plan scolaire, si une femme est stérile ou si elle n'arrive pas à trouver un mari, si l'on a l'impression de rencontrer un blocage quelconque dans la vie, on accuse un pouvoir diabolique. Soit on est victime de la sorcellerie, soit on est sous l'influence d'un pacte fait avec les esprits par ses parents ou ses ancêtres, soit on a été cible d'une malédiction ou un mauvais sort, soit un génie ou autre esprit en veut à nous. Dans ces milieux, après avoir attribué le problème à une cause maléfique, on conseille de chercher la délivrance auprès de Jésus ou un de ses serviteurs, et on espère qu'après leur délivrance, ces personnes se convertiront et resteront des chrétiens zélés. Trop souvent, ayant trouvé une solution à leurs problèmes temporels, ces personnes ne voient plus le besoin de fréquenter l'Église, mais là c'est un autre sujet. La délivrance dont beaucoup parlent aujourd'hui concerne des situations telles que nous venons d'énumérer. Notre but n'est pas de dire que Jésus ne serait pas capable de résoudre de tels problèmes, mais en examinant les Écritures, nous voyons que la Bible ne parle pas de ce phénomène quand elle décrit la délivrance que Jésus est venu apporter aux hommes. Comme nous l'avons déjà vu, la servitude qui est la plus en vue dans le Nouveau Testament, c'est la servitude au péché. Voyons donc ce que représente la délivrance de cette servitude-là. En Romains 7, versets 24 et 25, Paul s'exclame « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Quelle situation le rendait si malheureux ? Et pour quelle délivrance remerciait-il Dieu? Un regard sur le contexte nous éclaire. À partir du verset 14, nous lisons ces propos. « Nous savons que la loi est spirituelle, mais moi je suis un homme faible, vendu comme un esclave au péché. Je ne comprends pas ce que je fais, car je ne fais pas ce que je voudrais faire, mais je fais ce que je déteste. En effet, quoique le désir de faire le bien existe en moi, je suis pourtant incapable de l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Je découvre donc cette règle. Quand je veux faire le bien, je suis seulement capable de faire le mal. Au fond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je trouve dans mon être une autre loi qui combat contre celle qu'approuve mon intelligence. Elle me rend prisonnier de la loi du péché qui est en moi. « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort ? Dieu soit loué par Jésus-Christ notre Seigneur. » Romains 7, à partir du verset 14. Dans ce chapitre, Paul parle du point de vue d'un juif sincère avant la venue du Christ. Une telle personne reconnaissait bien la justice de la loi de Dieu et ce qu'elle exige, mais elle n'arrivait pas à la garder. Cette loi donc l'a condamnée, avec raison. Sans Jésus comme sauveur, tout homme sincère se retrouve dans cette situation misérable. Il craint Dieu, il reconnaît le bien fondé de ses lois, mais il se voit constamment en violation de ses lois. Il veut avoir une conscience libre et être en communion avec Dieu, mais il est au contraire frustré par ses propres échecs sans fin, souillé à ses propres yeux et à ceux de Dieu, condamné et misérable. Il a soif de la délivrance de son péché. Et c'est dans ce sens qu'il s'écrie « Qui me délivrera ?» Quelle est la solution qu'offre Paul? Il dit au chapitre 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Le « donc » dans cette phrase se réfère à ce que Paul avait déjà dit en Romains 7, verset 6. nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. » Il parle ici de l'ancienne loi qui condamnait l'homme et ne pouvait pas justifier le coupable. Étant mort avec Christ dans le baptême, le chrétien n'est plus, disait Paul, sous cette loi. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, c'est-à-dire ceux qui ont cru et ont été baptisés en lui. Dans une étude précédente, nous avons vu Hébreux 2, verset 15, qui dit que Jésus est mort sur la croix afin de délivrer ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. À cause de la victoire de Jésus sur la mort, le chrétien fidèle ne devrait plus la craindre. Comme Paul, en 1 Corinthiens 15, verset 55, il peut demander « Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ?» La vie sur la terre devient tout simplement l'occasion de servir le Maître que nous aimons, et la mort est l'occasion de recevoir de lui la récompense éternelle. Nous pouvons donc avoir l'attitude exprimée en Philippiens 1, versets 21 à 24. « Car pour moi, la vie, c'est le Christ, et la mort est un gain. Mais si en continuant à vivre, je peux encore accomplir une œuvre utile, alors je ne sais pas que choisir. Je me sens tiré des deux côtés. Je désire quitter cette vie pour être avec le Christ, ce qui serait bien préférable. Mais il est beaucoup plus important, à cause de vous, que je continue à vivre. » Le chrétien n'a plus besoin d'avoir peur de mourir. Au contraire, il voit la mort comme un passage qui l'introduit dans le bonheur parfait. Nous sommes pleins de courage et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. Mais nous désirons avant tout lui plaire, que nous demeurerions dans ce corps ou que nous le quittions. 2 Corinthiens 5, versets 8 et 9. Jésus nous délivre non seulement de la condamnation du péché et de la crainte de la mort, mais aussi de la futilité de la vie dans le péché. 1 Pierre 1, verset 18 dit aux païens devenus chrétiens, « C'est par le sang précieux de Christ que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. » Au chapitre 4, verset 3, Pierre rappelle quelques aspects de cette manière de vivre. C'est assez, en effet, d'avoir dans le passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. L'apôtre Paul aussi souligne que la vie de péché est un gaspillage. Quand vous étiez esclave du péché, vous étiez libre par rapport à la justice. Qu'avez-vous gagné à commettre alors des actes dont vous avez honte maintenant? Ces actes mènent à la mort. Romains 6, versets 20 et 21. Déjà dans l'Ancien Testament, le roi Salomon nous avait averti que la vie sans relation avec Dieu ne peut donner aucune satisfaction réelle. Il a écrit en Ecclésiaste 2, versets 1 à 11, « Je me suis dit, voyons ce que valent les joies de la vie. Découvrons ce qu'est le bonheur. » Eh bien, cela aussi est illusoire. Le rire est stupide et la joie ne mène à rien. J'ai décidé de goûter au plaisir du vin et d'imiter la vie des insensés, tout en restant maître de moi-même. Je voulais comprendre ce que les hommes ont de mieux à faire pendant le temps de leur vie sur la terre. J'ai entrepris de grands travaux. Je me suis construit des maisons et j'ai planté des vignes. J'ai amassé de l'argent et de l'or. Des chanteurs et des chanteuses venaient me divertir. Je ne me suis rien refusé de tout ce que je souhaitais. Je ne me suis privé d'aucun plaisir. Alors j'ai considéré toutes mes entreprises et la peine que j'avais eue à les réaliser. J'en ai conclu que tout cela est aussi inutile que de poursuivre le vent. Les humains ne tirent aucun profit véritable de leur vie sur la terre. Voilà la perspective sur la vie quand elle est menée loin de Dieu. Mais Jésus donne un sens nouveau à l'existence d'un homme. Il le délivre de la futilité. Dans notre première leçon de cette série sur la délivrance, nous avons parlé de la délivrance des Israélites, de leur servitude en Égypte. Dans notre seconde leçon, nous avons vu des points de ressemblance entre cette délivrance physique est la délivrance spirituelle que Jésus nous donne. Revenons à cette comparaison pour souligner une ressemblance de plus. Quand les Israélites ont traversé la mer Rouge, ils ne se sont pas trouvés tout de suite dans le beau pays de Canaan, leur destination finale. Au contraire, ils étaient dans un désert brûlant, une terre hostile qui ne pouvait guère supporter un peuple nombreux comme la nation d'Israël. Ce peuple était néanmoins destiné à errer pendant toute une génération dans le désert. C'était une épreuve très dure, mais Dieu était avec le peuple pour le guider et le protéger. Il a pourvu à tous les besoins du peuple, que ce soit de l'eau, de la nourriture ou du vêtement. Il n'a pas ôté tout ce qui était difficile à leur existence, mais il a donné les moyens de faire face aux conditions difficiles qui devaient précéder leur entrée au pays promis. Pareillement, le fait que Jésus-Christ nous délivre ne signifie pas que tous nos problèmes sur cette terre seront balayés. La Bible ne promet pas que tous les chrétiens seront riches, pas matériellement du moins. Jacques 2 et 1 Corinthiens 1 verset 26 montrent clairement que la majorité des chrétiens au 1er siècle étaient pauvres. Mais ils n'étaient pas sans consolation. Jacques 2 verset 5 dit « Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime ?» C'est ainsi qu'il dit au chapitre 1, verset 9, que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Il a des richesses dans le ciel qui ne peuvent ni se gâter, ni se salir, ni perdre leur éclat. La Bible ne promet pas que le chrétien sera forcément guéri de ses maladies physiques. Même ceux qui jouissent de la bonne santé dans leur jeunesse risquent, qu'ils soient chrétiens ou pas, de souffrir les nombreuses douleurs et faiblesses des personnes âgées. Mais encore, le chrétien a une grande consolation. C'est pourquoi, dit Paul en 2 Corinthiens 4, versets 16 et 18, nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre âme intérieure se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Beaucoup d'Israélites ont voulu retourner dans la servitude en Égypte au lieu de persévérer jusqu'à ce que toutes les promesses de leur délivrance soient effectives. Malheureusement, certains chrétiens aujourd'hui veulent exiger tout maintenant. La prospérité, la santé parfaite, la fin de toute souffrance. Ils oublient les paroles de Paul en Romains 8, versets 24 et 25. Car nous avons été sauvés, mais c'est encore en espérance. Si l'on voit ce que l'on espère, ce n'est plus de l'espérance. Qui donc espérerait encore ce qu'il voit? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec patience. Que personne donc ne vous trompe par une fausse présentation de la délivrance que Dieu nous offre. Elle est merveilleuse. Déjà nous sommes délivrés par Jésus de la condamnation, de la crainte de la mort et d'une manière de vivre qui est futile. Mais certains aspects de cette délivrance nous attendent dans notre pays promis. Ayons donc du courage et persévérons.